France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1998, dans une série de 5 émissions du cabinet de curiosité, Catherine Pont-Humbert déclinait les différentes figures de Casanova. Pour tenter de saisir chez le Vénitien l'intellectuel du siècle des Lumières, la deuxième de ses émissions avait convié le professeur Gérard Laouati, spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle. Une émission qui, rappelant le talent d'écrivain, de conteur de Casanova, auteur avec Histoire de ma vie de l'un des plus grands textes du XVIIIe siècle, cernait l'intellectuel et l'aventurier qu'il avait été dans son siècle. Mais, en éclairant les profonds paradoxes de sa pensée, cette émission exposait aussi ce qui avait tenu Casanova à distance respectueuse du penseur, du philosophe qu'il aurait rêvé d'être, à distance de Voltaire et de Rousseau, qu'il aurait quelque peu jalousé. Le cabinet de curiosité, figure de Casanova, deuxième des 5 épisodes, l'intellectuel du siècle des Lumières, première diffusion le 2 juin 1998 sur France Culture.
Je croise l'existence d'un Dieu immatériel, créateur et maître de toutes les formes. Et ce qui me prouve que je n'en ai jamais douté, c'est que j'ai toujours compté sur sa providence, recourant à lui par le moyen de la prière dans toutes mes détresses, et me trouvant toujours exaucé. Le désespoir tue, la prière le fait disparaître, et après elle, l'homme confie et agit. Quels soient les moyens dont l'être des êtres se sert pour détourner les malheurs imminents sur ceux qui implorent son secours, c'est une recherche au-dessus du pouvoir de l'entendement de l'homme, que dans le même instant qu'il contemple l'incompréhensibilité de la providence divine, se voit réduit à l'adorer.
Figure de Casanova, l'intellectuel du siècle des Lumières. Dans le domaine de la pensée, Casanova plonge ses observateurs dans la perplexité. Homme de clivage et de paradoxe, sa philosophie est d'abord et avant tout une tentative de justifier sa vie et ses expériences. Il aspire à la reconnaissance du penseur, sans pour autant chercher à dissimuler les aventures du jouisseur, et fonde toute sa pensée sur la notion de plaisir. Si la postérité lui reconnaît un véritable talent d'écriture, c'est un conteur efficace et plein d'humour, il est rarement retenu pour sa contribution à la pensée de son siècle. Pour beaucoup, Casanova demeure synonyme de liberté et même d'une insolente liberté. C'est un des aspects essentiels du mythe.
Le mythe de Casanova repose sur cette idée d'une sorte de liberté absolue de Casanova, liberté sociale, liberté par rapport aux femmes.
Gérard Laouati.
Une vie un peu sur la brèche, mais quand on regarde la trajectoire de Casanova, il ne faut pas oublier que l'histoire de ma vie est une œuvre littéraire, que Casanova a donné une certaine image de lui-même, qu'il a voulu construire cette image, qu'il a beaucoup hésité d'ailleurs devant cette image. Et je ne suis pas sûr que cette idée d'homme libre corresponde vraiment à une expérience authentique de Casanova. Que ce soit une création littéraire, tout à fait d'accord, mythe du séducteur, donc extrêmement libre dans son rapport aux femmes. Quand on y regarde de plus près, Casanova était condamné à sa liberté. D'abord, il était emprisonné sous les plombs et la liberté, il l'a conquise de haute lutte. Et ensuite, ça a été un proscrit. Et pendant une vingtaine d'années, donc, on le voit tourner en Europe et on le voit se rapprocher de Venise et on sent que cette liberté lui pèse.
De surcroît, Gérard Laouati, cette histoire de liberté est en fait un petit peu un paravent qui dissimule quand même une réalité légèrement plus complexe, dans la mesure où, pour ce qui est de la pensée, Casanova est un homme qui laisse un petit peu perplexe, dans la mesure où On pourrait a priori le prendre pour une très belle incarnation de l'homme des Lumières. Il se dit philosophe, il est chrétien comme tout le monde, il est franc-maçon parce que ça l'arrange et que c'est plutôt commode. Bref, il présente un peu les traits d'une sorte de caméléon qui s'adapterait à toutes les nécessités de son siècle.
Caméléon des Lumières, c'est pas mal comme formule. Alors, Casanova et les Lumières, je crois que c'est une question aussi très compliquée. Nul doute que Casanova, au moment où il écrit son autobiographie, donc à partir de 1790, ait été influencé par la pensée des Lumières. Il ne fait aucun doute que Casanova n'a pas été un militant de l'idéal des Lumières au sens voltairien du terme. Alors, caméléon des Lumières, oui. Et à mon avis, il ne fait aucun doute que Casanova était athée, mais il n'a pas voulu le dire. Ou du moins, il n'a pas voulu l'écrire. Et on peut trouver des explications très simples. On oublie souvent que Casanova est un homme terrorisé. C'est un homme qui a été enfermé sous les plombs à l'âge de 30 ans. À mon avis, il n'en a jamais guéri, et alors qu'il était authentiquement athée, je crois, et certainement matérialiste, eh bien, il a toujours hésité à le reconnaître, à l'écrire. Et quand on regarde ses manuscrits, il y a beaucoup de manuscrits philosophiques, on voit qu'il a cette tentation de se définir par rapport au rationalisme des Lumières et à adhérer à ce rationalisme, mais en même temps, il dit sans cesse que toute vérité n'est pas bonne à dire, et alors il laisse entendre qu'il pourrait être matérialiste, mais qu'il faut respecter la dimension sociale de l'Église.
Pour ce qui est de sa croyance en Dieu, il l'affiche pourtant et relativement tôt dans l'histoire de ma vie, puisque dès les premières pages, il affirme sa croyance en Dieu. Il a simplement une conception qui est assez personnelle, c'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, que la croyance en Dieu ne gêne en rien ses plaisirs, parce qu'il est convaincu que Dieu ne peut pas vouloir qu'un homme renonce à son bonheur. Ce qui est une croyance en Dieu qui finalement correspond bien à cette philosophie du plaisir qu'il développe.
Quelqu'un disait que dans l'histoire de ma vie, il écrit un peu comme si Saint François de Sales racontait des histoires lestes. Donc, il y a une présence de Dieu. Alors, pour être un peu plus sérieux, il semble que Casanova, à la fin de sa vie, ait retrouvé une forme de foi. Et alors, ça brouille un peu les cartes. Pourquoi ? Parce qu'il a repris son manuscrit, le manuscrit de l'histoire de ma vie en 1797, un an avant sa mort, et il a apporté des corrections. Alors, il se peut que là, au seuil de la mort, eh bien, Casanova ait introduit une dimension d'orthodoxie catholique qui n'existait pas dans sa vie. Hein.
Oui, je pense qu'il faut dire effectivement, c'est que son véritable credo, c'est le plaisir, et que par rapport à cette idée de religiosité, ce qu'il veut en fait, c'est laver le plaisir de la souillure du péché, en fait. C'est ce qui lui importe.
Je crois que la première grande cohérence, Casanova ne pratique pas une écriture de la cohérence, mais la première grande cohérence que l'on peut trouver dans sa pensée, c'est autour de cette idée de plaisir. Alors je crois que ça correspond à quelque chose qui a été vécu, et rétrospectivement, ça correspond à une volonté de donner un sens à une existence qui a été une existence d'aventurier, un peu sur la brèche, et au fond, Casanova est souvent assailli par une sorte de sentiment d'échec. Et quand il écrit, il va essayer de lutter contre ce sentiment de mépris de soi-même aussi, et il fait du plaisir, donc, hein, et du souvenir du plaisir, une sorte de principe d'existence, du plaisir vécu, mais du plaisir partagé, et dans son rapport aux femmes, ce qui est caractéristique de cette écriture, de la séduction, c'est ce désir de donner du plaisir, d'en recevoir naturellement, mais de faire partager ce plaisir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet hédonisme n'est pas coupé d'un univers culturel. Le plaisir, c'est les femmes, mais c'est aussi les livres. Hein. Il y a de très beaux parallèles chez Casanova entre la femme et le livre.
Il y a effectivement chez Casanova une cohérence dans la justification de sa vie par l'écriture, mais sur le remords, par exemple, qui est un fondement de la conscience morale, il a une position de rejet total et il n'est peut-être pas tout à fait dans la cohérence.
Oui, là, c'est peut-être la faiblesse de son système, si tant est qu'il y ait un système chez Casanova. Hein, il parle souvent de la peste des systèmes et il refuse la pensée systématique. Mais quand il essaie de justifier, au fond, ses choix, il dit systématiquement « Puisque je n'éprouvais pas de remords, je n'étais pas coupable. il y a une sorte d'inversion très curieuse, il le dit à plusieurs reprises, à partir du moment où on est coupable, on éprouve du remords, dit Casanova. Et avec des principes comme cela, l'homme qui n'éprouve pas de remords, donc la brute la plus épaisse, celui qui va accomplir les pires forfaits, sera innocent. Il y a, dans sa pensée, là, il n'arrive pas à justifier ses transgressions au plan d'une morale. Il essaie, parce que c'est pas quelqu'un qui est amoral, contrairement à ce qu'on a pu penser, et au fond, il se pose la question, mais il n'arrive pas à résoudre ce problème. Il ne le résout qu'au prix d'un paralogisme, donc en disant « puisque je n'éprouve pas de remords, je ne suis pas coupable ». Et on peut voir là, peut-être, quand même une des faiblesses quand on cherche à reconstituer un petit peu cette pensée de Casanova.
Il ne m'est rien arrivé de malheureux dans toute ma vie que par ma faute. Et j'attribue aux combinaisons presque tous les bonheurs dont j'ai joui. Ce qui, à la vérité, est un peu injuste et humiliant, mais tel est l'homme. Je deviendrais fou, je crois, si dans mes soliloques je me trouvais malheureux sans qu'il y eût de ma faute, car je ne saurais où aller la chercher, à moins que je ne dusse m'avouer bête. Je sais de n'être pas bête.
On pourrait donc dire que la philosophie de Casanova est une philosophie du plaisir, mais aussi peut-être une philosophie de l'action, puisque c'est un homme qui est quand même sans cesse au cours de sa vie dans l'action, et en fait qui trouve sa source peut-être dans un optimisme, qui est un optimisme assez fondamental chez Casanova, qui est une sorte de conviction que toutes ces entreprises, bien ma foi, elles vont réussir. Il est très très convaincu de finalement d'être né avec une bonne étoile ou un ange gardien qui le, je sais pas si on peut utiliser l'image de l'ange gardien, mais enfin en tout cas d'être protégé dans la réussite de ses entreprises et pas seulement de ses conquêtes féminines, hein, bien évidemment.
Oui, Casanova avait le sentiment du, un peu comme Socrate, parfois il le dit, du bon génie qui veillait sur lui. Alors, il hésite au plan philosophique, il hésite entre une vision d'un certain déterminisme et une conscience de sa liberté. Alors, il trouve une sorte de subterfuge en disant que quand tout va bien, c'est la providence, et quand ça va mal, c'est lui qui a mal agi. Il est libre pour faire des âneries, pour échouer, et quand il réussit, il a conscience d'une providence ou d'un bon génie qui veille sur lui. En dehors de cette dualité, Casanova est un homme de la volonté. Alors il en donne beaucoup d'exemples, hein, et à partir du moment où il est acculé à être aventurier, eh bien il est acculé à réussir et il y parvient parfois très bien. L'exemple le plus frappant, c'est la fuite des plombs, donc là, qui est quand même d'abord un très beau récit, et ensuite l'exercice d'une farouche volonté, Casanova le dit, hein, la liberté ou la mort. Avant les révolutionnaires, il a ce cri, la liberté ou la mort, et il va conquérir cette liberté en risquant quand même la mort.
Alors sur sa route et au fil des années, Casanova rencontre énormément de monde. Il côtoie les grands de ce monde, un certain nombre de rois, d'empereurs, de reines, d'impératrices et autres, mais également des penseurs. Il y a quelques rencontres, alors en France, qui sont des rencontres, je crois, relativement importantes pour lui. Et là, je pense notamment aux rencontres avec Voltaire et avec Rousseau.
Alors les deux rencontres, bon, la rencontre avec Voltaire, là il y aurait beaucoup de choses à dire. Il ne le rencontre pas en France, il le rencontre alors soit en 1761, soit en 1762, aux Délices donc, hein, aux portes de Genève. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est la façon dont Casanova va raconter cela. Pourquoi ? Parce que Voltaire a été son ennemi intime, il a jalousé Voltaire pendant 40 ans. Casanova a été envieux, il a rêvé d'être Voltaire, je crois, il a peut-être rêvé d'être pape quand il était jeune, et ensuite il a vraiment rêvé d'être Voltaire, il a lu Voltaire. Et au moment où il va raconter cette rencontre avec Voltaire, eh bien il va régler ses comptes. Comment raconte-t-il cela ? Il dit qu'au début ça se passe bien, et puis après la conversation devient aigre, à propos d'un livre un peu oublié aujourd'hui, ils se sont disputés, donc, et Casanova dit qu'il a, je cite de mémoire, qu'il est parti fort content d'avoir mis cet athlète à la raison. Et alors, il intercale entre les récits des rencontres avec Voltaire, il intercale des scènes de sexualité qui sont tout à fait exubérantes et tout à fait étonnantes, hein, et il donne à trois jeunes femmes de Genève, il donne des balles d'or comme moyen contraceptif. À mon avis, c'est un montage, et Casanova va s'ingénier à montrer que face à un Voltaire qui a une réussite intellectuelle, eh bien lui, Casanova, a une sorte de réussite de vie absolument incandescente. Et il construit son récit pour montrer que, au fond, Voltaire vit dans une petite cour, bien sûr, mais que lui, Casanova, sait vivre de façon beaucoup plus intense, sait vivre de façon beaucoup plus brillante, peut-être, et même dans l'échange intellectuel.
Voilà, lui dis-je, le plus heureux moment de ma vie. Je vois à la fin mon maître. Il y a 20 ans, monsieur, que je suis votre écolier. Honorez-moi encore d'autres 20, et après, promettez-moi de venir me porter mes gages. Je vous le promets, mais promettez-moi aussi de m'attendre. Je vous en donne ma parole, et je manquerai de vie plutôt que d'y manquer. Une risée générale applaudit cette première pointe voltairienne. C'était dans l'ordre. Les rieurs sont faits pour tenir en haleine l'un des deux, toujours aux dépens de l'autre. Et celui pour lequel il se déclare est toujours sûr de gagner. C'est une cabale qui a lieu en bonne compagnie.
Alors j'ajoute juste une chose, sans faire trop long. Il y a d'autres manuscrits où il raconte cette rencontre avec Voltaire, et il ne dit pas la même chose. Dans un manuscrit qui est encore inédit aujourd'hui, qui va bientôt paraître, l'essai de critique sur les sciences, sur les mœurs et sur les arts, il raconte cette rencontre avec Voltaire, et il reconnaît que Voltaire lui a un peu fermé le bec, et qu'il n'a pas eu cette prestance, cette morgue, et ce sens de la répartie qu'il met en scène dans son texte. Au fond, le point de divergence, il a essayé d'être historien comme Voltaire, il a écrit une histoire des troubles de la Pologne qui essaie de reprendre les méthodes historiques de Voltaire, mais il reproche quand même fondamentalement une chose à Voltaire, c'est la critique antireligieuse. Et on a le sentiment que Casanova a conscience, après coup naturellement, que toucher à l'autel, toucher à la religion, c'est quand même toucher au trône. Et donc il ne pardonne pas à Voltaire d'avoir contribué, du moins à ses yeux, à ce déclenchement de la Révolution par sa critique du pouvoir temporel de la religion.
Dans ces jours-là, Madame Durfay, ayant envie de connaître Jean-Jacques Rousseau, nous sommes allés à Montmorency lui faire une visite, lui portant de la musique qu'il copiait merveilleusement bien. On lui payait le double de l'argent qu'on aurait payé à un autre, mais il se rendait garant qu'on n'y trouverait pas de faute. Il vivait de cela. Nous trouvâmes l'homme qui raisonnait juste, qui avait un maintien simple et modeste, mais qui ne se distinguait en rien, ni par sa personne, ni par son esprit. Nous ne trouvâmes pas ce qu'on appelle un aimable homme. Il nous parut un peu impoli, et il n'a pas fallu davantage pour qu'il paraisse à Madame Durfay malhonnête.
Alors là aussi, on peut douter de l'authenticité de cette rencontre, mais peu importe, puisqu'elle est dans le texte, on la considère comme Casanova la raconte, et c'est une rencontre ratée et tout à fait étonnante. On voit donc Casanova, l'homme de l'ostentation, affublé de ses breloques, de ses habits chatoyants, de son tricorne qu'on imagine avec un plumet, en compagnie de qui ? De Madame Durfay, une aristocrate qu'il berne au moyen de croyances, de superstitions, de l'alchimie, l'escroque de façon éhontée. Et ils arrivent chez Rousseau, donc on peut imaginer l'effarement de Jean-Jacques Rousseau devant cette marquise plus qu'à demi-folle et ce Casanova, personnage haut en couleur. Alors, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu de dialogue de toute façon, puisque même dans la façon dont Casanova le raconte, ça tourne court. On peut le regretter parce que je pense que ces deux hommes auraient eu des choses à se dire. On peut difficilement imaginer des choix philosophiques, des choix esthétiques, des modèles de vie, des choix d'écriture, donc aussi opposés que ceux de Rousseau et de Casanova, des choix politiques aussi. Alors toute sa vie, en dehors de cette rencontre ratée, toute sa vie, Casanova va dire du mal de Rousseau. Il va l'appeler un homme à paradoxe, mais là aussi, il y a une grande dimension d'envie, parce que Casanova a rêvé d'être un grand écrivain. Il a rêvé d'être Voltaire, il a aussi rêvé d'être Rousseau. Et il le dit à plusieurs reprises qu'il envie le merveilleux style de Rousseau, qu'il voudrait avoir ce talent, ce sens de la phrase que Rousseau a largement montré. Et là, comme chez Voltaire, on voit la dimension de Casanova écrivain, qui n'a, au moment où il va voir Voltaire comme au moment où il va voir Rousseau, il n'a rien publié ou des toutes petites choses. Donc il y a véritablement une envie. Et on peut regretter quand même que le dialogue n'ait pas eu lieu.
Vous le disiez, avec Madame Durfé, Casanova a organisé une gigantesque escroquerie. On peut tout de même penser que Casanova est superstitieux, ce en quoi donc il est bien à l'image de son siècle. En revanche, il ne croit pas aux sciences occultes. Et alors d'ailleurs, il y a une petite phrase qui est assez drôle, qui concerne Cagliostro ou le comte de Saint-Germain. Il parle d'eux, Casanova, en disant « ces génies fainéants qui préfèrent la vie vagabonde à une existence laborieuse », qui est tout de même sous la plume de Casanova, est une sorte de paradoxe.
Oui, Casanova a le génie comme cela de se mettre un peu en dehors de ce qu'il est. Alors, il écrit un manuscrit vraisemblablement pour Joseph II où il se pose en professeur de morale aussi, ce qui est pas mal, hein. Il dit, on n'a pas besoin au fond d'avoir pratiqué la morale dans sa vie pour l'enseigner et je serai très bien placé pour l'enseigner. Alors, ambiguïté dans le texte de Casanova. Pourquoi? Parce que quand il écrit son histoire de ma vie, Casanova adopte un point de vue rationaliste. Et il dit, tous les horoscopes, toute la quête de la pierre philosophale, la sorcellerie naturellement, ça n'a aucun sens et je n'ai jamais adhéré à cela. Il adopte donc, en écrivant, un point de vue rationaliste. Il semble bien que dans sa vie, Casanova n'ait pas adopté cette attitude, c'est une évidence. Et son attitude, on peut la résumer à une sorte de précepte un peu cynique qui serait de l'ordre du neveu de Rameau. L'argent des riches est le patrimoine des gens d'esprit, ou l'argent des sots est le patrimoine des gens d'esprit. Alors autour de Madame Durfé, ça a pris des proportions quand même effarantes. Il y a une dimension de jeu. Casanova s'amuse, il y a une dimension intéressée, Madame Durfé est extrêmement riche, hein, et Casanova en profite. Mais je crois qu'il y a une curiosité de Casanova. Si toute sa vie il s'est entouré de manuscrits, s'il a été intéressé par tout ce qui est de l'ordre de l'occultisme, son adhésion à la franc-maçonnerie, même s'il traite ça un peu avec condescendance et avec mépris, au moment où il écrit, on peut penser qu'il y a eu là des curiosités qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été satisfaites, et qu'ensuite il s'en est un peu retiré. Mais à mon avis, il est là où il n'est pas dans la mouvance des Lumières, il est dans le clair-obscur, et au fond, ces horoscopes qu'il griffonne et qui se réalisent avec Mademoiselle Roman, qui devient la maîtresse de Louis XV, hein, comme il l'aurait prédit donc par un horoscope à Grenoble. Au fond, Casanova, il est superstitieux, donc son adhésion à la rationalité, c'est peut-être une conquête de l'écrivain, mais ça n'est pas quelque chose qui a été vécu.
Vous disiez que Casanova avait rêvé d'être pape, qu'il a également rêvé d'être Voltaire, qu'il a ensuite rêvé d'être Rousseau. Il n'a rien été de tout ça, il a été lui-même, ce qui est déjà pas mal si l'on considère ça. Sa vie, en tout cas, il est évident qu'il aspirait probablement à une reconnaissance en tant que penseur et en tant qu'écrivain. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'écrivain, personne ne remettrait en cause la qualité littéraire de son récit, de l'histoire de ma vie. Est-ce que vous, Gérard Laouati, vous seriez prêt à lui accorder l'étiquette de philosophe et de penseur ?
Alors, penseur, oui. Casanova, c'est voulu penseur. Et il y a une sorte de tragédie, là. Il y a une sorte, c'est presque pathétique. Pourquoi ? Contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui, quand on lit l'histoire de ma vie, on a le sentiment qu'au fond, Casanova, à bout d'aventure, s'est mis à sa table et puis il a brodé, il a improvisé, comme dans une sorte de conversation avec un lecteur. Il y a des marques d'oralité dans le texte. Il aurait, comme cela, dans le plaisir, écrit sa vie. Je crois qu'on se trompe quand on imagine Casanova comme cela. Pourquoi ? Parce que pendant 20 ans, il va essayer d'écrire des textes philosophiques. Et il y en a beaucoup. Et qu'essaie-t-il de faire ? Eh bien, il essaie de se poser en une sorte de Voltaire, où il connaissait assez peu Diderot, mais en un philosophe. Il joue au philosophe. Et alors, ses amis disent que c'est déplorable. Quand il n'est jamais si bon philosophe que quand il ne veut pas l'être. Je crois que c'est le prince de Ligne qui dit cela. Et Casanova a eu beaucoup de mal, me semble-t-il, à accepter l'image qu'il allait laisser à la postérité s'il racontait une vie d'aventurier. Alors, il a rêvé d'être Voltaire, et puis voilà qu'il doit se résoudre à n'être que Casanova. Il y a ce sentiment que, au fond, cette vie d'aventurier n'est pas une vie enviable ou si exceptionnelle que cela. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette vie va devenir l'objet d'une métamorphose littéraire. Et pour moi, Casanova est, bon, on ne va pas faire un palmarès, mais quelqu'un disait que c'était le plus vivant des grands vivants du XVIIIe siècle, eh bien c'est par l'écriture. Et l'écriture de Casanova me semble tout à fait remarquable. Pourquoi ? Parce que c'est une écriture qu'il a élaborée pour ce type de récit. Il n'a pas le génie de l'écriture philosophique. En revanche, et les témoins de sa vie l'ont souvent dit, lorsqu'il compte ses aventures, eh bien c'est un très grand écrivain. Alors, dans le détail, il y a des italianismes, et parfois la syntaxe est un peu hasardeuse, mais je crois qu'il y a fort peu d'écrivains qui ont cette qualité de langue, cette efficacité d'écriture, cet humour aussi, il ne faut jamais oublier l'humour de Casanova, la petite distance par rapport à soi-même, ce qui fait que c'est un des très très grands textes du XVIIIe siècle.
Casanova meurt après la Révolution française. Il vit donc cet épisode de l'histoire. Il me semble qu'il est, lui, définitivement un homme d'Ancien Régime et que, d'une certaine manière, ce monde que la Révolution française veut faire disparaître, ce monde de luxe, de facilité et de vie oisive, c'est ce à quoi Casanova a toujours aspiré tout au long de sa vie.
Oui. Casanova refuse, rejette la Révolution française. Il dit qu'il a écrit une lettre en 120 pages à Robespierre. Ça devait être une fameuse bordée d'injures. On a des textes sur la Révolution française, des manuscrits de Casanova, où il dénonce les actions révolutionnaires. Et il n'a pas de mots assez durs contre les Jacobins. Alors, on comprend tout à fait cela. Pourquoi ? Parce que toute sa culture, toute son histoire, et l'histoire d'un homme d'Ancien Régime, son enfance à Venise, le souvenir de cette enfance. Donc, Casanova avait la conviction que l'Ancien Régime se rétablirait et que la Révolution n'était qu'un phénomène limité. Son mode de vie, sa culture, ses choix esthétiques sont les choix d'un homme d'Ancien Régime. Sa sensibilité, par exemple, sa sensibilité au parfum, sa sensibilité gustative, son érotisme, c'est un érotisme d'Ancien Régime. Et c'est pour cela que des historiens s'intéressent à Casanova et ont une sorte d'intérêt pour Casanova parce que c'est un témoignage de l'intérieur. Et on explore la mentalité d'un homme d'Ancien Régime. Et au fond, il ne pouvait que mourir en 98, au moment où Venise donc perd son indépendance. Et il y a là, c'est vrai, une sorte de parallélisme des destins de Venise et du destin de Casanova.
Figure de Casanova, l'intellectuel du siècle des Lumières, avec Gérard Lawati, professeur à l'université de Pau. Texte lu par Éric Dufaille. Le cabinet de curiosité, Rémi Fessard, Noélie Louis-Marie, Vincent Deck, Catherine Pont-Imbert.
C'était le deuxième de 5 numéros de la série Figure de Casanova, proposée par Catherine Pont-Imbert pour le cabinet de curiosité. Première diffusion le 2 juin 1998 sur France Culture. À suivre.